donne la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, édition du 20 octobre 2014, en direct du Studio 13 à Washington, chez Robert Dorsil et Morgane Kiriek. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, Nigeria, de nouveaux combats font planer un doute sur le cessez-le-feu annoncé vendredi.
Début à Alger de la troisième phase des pourparlers entre Bamako et les groupes armés du Nord Mali.
Ces négociations avaient été suspendues pour la fête de Tabaski. Elles reprennent dans un climat tendu parce qu'elles avaient buté sur le fédéralisme proposé par des groupes armés.
Plus de 80 ONG sont contre l'expulsion du chef du bureau de l'ONU pour les droits de l'homme en RDC.
Sous pression internationale, la Turquie ouvre ses frontières pour l'envoi de renforts aux Kurdes de Kobané.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission. Mais d'abord, le journal.
Malgré le cessez-le-feu annoncé en grande pompe vendredi entre le gouvernement nigérian et Boko Haram, de nouveaux combats ont été signalés dans le nord-est du pays. C'est ce que nous dit Idriss Fall.
Selon un officier nigérian et un membre d'un groupe d'autodéfense, les islamistes ont attaqué hier soir la ville de Damboa dans l'état de Borno. L'armée affirme avoir repoussé cette attaque et tué 25 insurgés. Déjà vendredi, le jour même où la trêve a été annoncée, des dizaines de membres présumés de Boko Haram avaient attaqué Abadam dans l'état de Borno. Des témoins affirment qu'au moins 30 personnes ont été tuées. Malgré tout, Doyin Okupe, conseiller du président nigérian, annonce la reprise demain des discussions au Tchad pour obtenir la libération de plus de 200 lycéennes kidnappées depuis la mi-avril par les islamistes. Il dit ne pas savoir combien de temps vont prendre ces discussions, mais a assuré que toutes les options sont sur la table. Sur la poursuite des affrontements, il assure que la direction de Boko Haram est d'accord pour le cessez-le-feu, mais certains militants islamistes ne sont pas encore au courant de cet accord.
Après une pause de plus d'une dizaine de jours, c'est reparti pour les pourparlers inclusifs intermaliens d'Alger. La troisième phase de ces négociations devrait permettre d'entrer dans le vif du dialogue entre groupes armés et gouvernement malien. Kassim Traoré.
Les négociations entre le gouvernement du Mali et les mouvements rebelles ont repris dimanche 19 octobre à Alger. La délégation malienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine, Ablaye Diop. Ces négociations avaient été suspendues pour la fête de Tabaski. Elles reprennent dans un climat tendu parce qu'elles avaient buté sur le fédéralisme proposé par des groupes armés, ce qui a été rejeté par la délégation malienne. Avant la pause pour la fête de Tabaski, les médiateurs avait pris connaissance des deux propositions. Elle va certainement faire des propositions. La suite des négociations dépendra en partie de la pertinence de ce que diront les médiateurs. Mais l'ouverture de la rencontre avait été ajournée en raison de l'absence de certains membres des délégations des groupes armés. En tout cas, les délégations des groupes armés sont actuellement au grand complet à Alger. La communauté internationale de son côté souhaite l'adoption rapide d'un accord définitif de paix pour le Mali. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
L'Organisation mondiale de la santé a déclaré aujourd'hui la fin officielle de l'épidémie d'Ebola au Nigeria. 42 jours, soit 2 fois 21 jours, la durée maximale de la période d'incubation depuis la confirmation du dernier cas. Le point avec Nicolas Pineau.
Rui Gamavaz, représentant de l'OMS à Abuja, a annoncé aujourd'hui la fin de l'épidémie. Le premier cas apparu à Lagos le 20 juillet avait fait craindre le pire, mais depuis, il n'y a eu que 20 contaminations, dont 8 décès. Avant le Nigeria, la fin de l'épidémie a été déclarée vendredi au Sénégal, où un seul cas importé de Guinée a pu être soigné. En Afrique de l'Ouest, depuis le début de l'année, près de 10 000 malades sont recensés, dont plus de 4 500 ont péri. Hélène Johnson-Sirleaf, présidente du Liberia, un des pays les plus touchés, a exhorté hier le monde entier à participer à la lutte contre cette maladie qui ne connaît pas de frontières. Signalons que la femme médecin norvégienne qui avait contracté le virus en Sierra Leone est maintenant guérie, d'après la branche norvégienne de Médecins sans frontières. De leur côté, les Européens tentent de muscler leur réponse. L'Union européenne va nommer d'ici la fin de la semaine un coordinateur de la lutte contre la fièvre hémorragique. Bruxelles promet au moins 500 millions d'euros d'aide pour endiguer l'Ebola dans les pays africains touchés et des garanties d'évacuation aux humanitaires infectés par le virus.
En République démocratique du Congo, un drone de la MONUSCO s'est écrasé ce matin, peu après son décollage. Sur sa page Twitter, la force onusienne affirme que l'engin a été récupéré sans dommage majeur. L'incident se serait produit à Goma.
Et un drone américain s'est également écrasé sur l'aéroport de Niamey, capitale du Niger. Les pistes ont été fermées pendant plusieurs heures. C'est ce qu'annonce l'AFP, citant l'armée américaine. Les raisons du crash demeurent inconnues.
On revient à RDC, ville morte aujourd'hui à Beni dans l'Est. La quasi-totalité des boutiques situées sur les grandes artères de cette ville de 700 000 habitants étaient fermées, indique l'AFP. Les habitants protestent ainsi contre l'insécurité suite au massacre perpétré par les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, crime qui aurait fait plusieurs dizaines de morts.
Et de l'autre côté de la frontière en Ouganda, une manifestation d'étudiants a mal tourné à Kampala. La police a usé de grenades lacrymogènes et tiré à balles réelles sur les protestataires qui dénonçaient la hausse des coûts de leurs études. On compte plusieurs blessés.
Pour parler sur le conflit au Soudan du Sud, le président tanzanien Jakaya Kikwete a reçu son homologue Salva Kiir dans le cadre d'efforts visant à mettre fin au conflit qui ravage le pays depuis 10 mois. Hier, le président tanzanien s'est entretenu avec Riek Machar, l'ancien vice-président du Soudan du Sud, à la tête d'une rébellion.
Et en Tanzanie toujours, la police affirme avoir tué dans la nuit le principal suspect d'une série d'attentats ayant visé Arusha. Yahya Omari a été abattu alors qu'il tentait de s'échapper lors de son transfert vers Dodoma, la capitale.
Le Parlement libyen est-il conforme à la Constitution ? Telle est la question à laquelle la Cour suprême libyenne tente de répondre suite à un recours déposé par Abderraouf Al-Manaï, un député pro-islamiste qui boycotte le Parlement.
Notons aussi qu'Ahmed Abou Katala, le Libyen accusé par les États-Unis d'avoir organisé l'attaque du consulat américain à Benghazi le 11 septembre 2012, a plaidé non coupable. Il a brièvement comparu aujourd'hui devant un juge fédéral à Washington DC. Accusé de meurtre, il encourt la peine de mort.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, 11 personnes ont été tuées ce lundi à Bagdad dans un nouvel attentat suicide anti-chiite. Cet attentat renforce les craintes d'une recrudescence d'attaques à l'occasion d'une grande cérémonie religieuse prévue cette fin de semaine. Claire Morin-Gibourg.
C'est à la sortie de la prière de la mi-journée que l'attentat suicide a eu lieu à Sinak, un quartier du centre de Bagdad. L'attaque a fait 11 morts et 26 blessés selon une source médicale. Elle survient moins de 24 heures après qu'un kamikaze a déclenché ses explosifs contre une autre mosquée chiite de la capitale, tuant au moins 22 personnes. Bagdad a connu ces derniers jours une recrudescence des attentats dont plusieurs ont été revendiqués par le groupe extrémiste sunnite État islamique. Cette nouvelle série d'attaques fait craindre d'autres attentats à l'occasion des commémorations de l'Ashura, la plus importante cérémonie religieuse chiite, culminant au 10e jour du mois musulman de Moharram à la fin de la semaine. Plusieurs centaines de milliers de fidèles convergent pour l'occasion à pied vers la ville sainte chiite de Kerbala, à 100 km au sud de Bagdad, et leurs processions ont été ces dernières années la cible d'attentats meurtriers.
Revirement du gouvernement turc. Ankara a annoncé aujourd'hui son soutien aux combattants kurdes en Syrie en autorisant les peshmergas irakiens à traverser son territoire pour rejoindre Kobané, ville syrienne assiégée par les djihadistes de l'État islamique. Et Jacques Aristide.
Il s'agit donc d'une première initiative concrète de la Turquie annoncée ce lundi par le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. Mesure surprenante car hier encore, le président turc Recep Tayyip Erdogan rejetait tout armement des combattants kurdes, les accusant d'être liés aux rebelles kurdes turcs du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, considéré tant par la Turquie que par les États-Unis comme un groupe terroriste. Les Américains ont également fourni pour la première fois une aide militaire aux Kurdes de Kobané. En effet, des armes, des munitions et du matériel médical ont été parachutés dimanche soir par un avion cargo de l'US Air Force près de la ville syrienne. Washington a fait savoir que la veille, le président américain Barack Obama avait informé son homologue turc de cette livraison aérienne.
Le Saint-Siège a demandé aujourd'hui à la communauté internationale d'agir pour prévenir de possibles et nouveaux génocides au Moyen-Orient et de s'attaquer aux sources qui soutiennent les activités terroristes de l'organisation État islamique. Le pape François a une nouvelle fois appelé à une riposte adéquate pour faire face à ce qu'il appelle un phénomène de terrorisme d'ampleur à première vue inimaginable. Le pape doit se rendre en Turquie fin novembre.
Au moins 15 personnes, dont des enfants, ont été tuées ce lundi au Yémen dans un attentat suicide à la voiture piégée. La cible, selon des témoins cités par l'AFP, était un barrage tenu par des rebelles chiites au sud de la capitale, Sanaa. L'explosion est survenue dans une région où s'affrontent les combattants d'Al-Qaïda et les rebelles chiites.
L'Indonésie a un nouveau président, Joko Widodo, surnommé Jokowi, a prêté serment aujourd'hui à Jakarta. Le secrétaire d'État américain John Kerry était présent à la cérémonie. M. Kerry devait s'entretenir avec le nouveau dirigeant indonésien et d'autres dignitaires asiatiques pour les encourager à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'extrémisme islamiste, notamment en Syrie et en Irak.
Au Japon, deux des cinq femmes ministres dans le cabinet de Shinzo Abe ont démissionné. La ministre du Commerce, Yuko Yobushi, et celle de la Justice, Midori Matsushima, étaient accusées de détourner des fonds publics pour s'acheter des votes et de violer la loi électorale.
À Hong Kong, les dirigeants du mouvement pro-démocratie ont rejeté les accusations du chef du gouvernement local selon lesquelles les protestataires étaient manipulés par les forces extérieures. Même réaction à Washington, accusée par Pékin de manipuler les manifestations. Ces accusations sont intervenues à la veille de pourparlers entre les dirigeants étudiants et le pouvoir exécutif de Hong Kong. Voilà pour le journal. 18h41 en temps universel, 14h41 ici à Washington. Chez Robin Dorcy et Morgane Guériec, en votre compagnie, restez branchés pour nos dossiers du jour.
Au Nigeria, le collectif Bring Back Our Girls, rendez-nous nos filles, est entre l'espoir et l'anxiété depuis l'annonce d'une trêve entre le gouvernement nigérian et Boko Haram et des négociations pour la libération de plus de 200 des lycéennes enlevées à Chibok. Les précisions de Michel Joseph.
Mis sur pied quelques semaines après l'enlèvement de près de 300 lycéennes à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, le collectif organise des manifestations quotidiennes à Abuja pour attirer l'attention sur le sort de ces lycéennes enlevées il y a un peu plus de 6 mois. 219 sont toujours portées disparues. Peu après l'annonce des négociations prévues cette semaine au Tchad, les membres du collectif se sont retrouvés à Abuja pour faire le point. Baki Shonibare, coordinatrice média du groupe, avait les larmes aux yeux quand elle s'est adressée à l'assistance.
How will a mother be feeling right now with the news that their girls could be coming back very soon?
Que ressentiront les mères à l'idée que leurs filles pourraient très bientôt rentrer? Qu'adviendra-t-il lorsqu'elles verront leurs filles pour la première fois? Et si ces filles ne rentraient pas dans l'état où elles avaient été enlevées? Je veux vraiment qu'elle rentre dès que possible après 6 mois de folie.
Comfort Ilia est native de Chibok. Elle n'a pas de proches parents parmi les jeunes filles kidnappées par Boko Haram.
Ce que je veux dire au nom des gens de Chibok, c'est que peu nous importe qu'il y ait des négociations, un accord ou un cessez-le-feu. Tout ce que nous voulons, c'est le retour de nos filles. C'est ce que disent les habitants de Chibok. Trop, c'est trop. Nous en avons assez. Nous sommes fatigués des inepties de ce pays.
Obi Ezekwesili dirige le collectif Rendez-nous nos filles.
Notre anxiété vient du fait que ce n'est pas la première fois que nous entendons une information positive concernant la libération des filles, qui n'est pas réalisée. Nous voulons que cela prenne fin. Nous ne pouvons pas imaginer la déprime qui s'abattrait sur tout le monde si cette nouvelle était un autre canular.
Le collectif Rendez-nous nos filles n'a cessé de critiquer la réponse du gouvernement nigérian à l'enlèvement des lycéennes et à 5 années d'insurrection dans le nord-est du pays. Les autorités nigérianes accusent de leur côté l'opposition de soutenir ce collectif pour ternir l'image du gouvernement avant les élections de 2015, ce que dément le collectif.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
En Guinée, Médecins sans frontières parle de dégradation face à la lutte contre Ebola. Depuis le mois d'août, le nombre de cas va croissant, d'où la nécessité de construire de nouveaux centres de traitement. Au total, la Guinée a enregistré 1495 cas, dont 887 décès. Voici le compte-rendu de Zakaria Camara.
La situation s'est dégradée en Guinée, annonce la mission de Médecins sans frontières dans le pays. Il faut donc faire vite. La Guinée et ses partenaires vont construire dans les jours qui suivent de nouveaux centres de traitement. Jérôme Mouton, chef de mission Médecins sans frontières en Guinée.
Il y a encore de la place puisqu'on vient d'augmenter la capacité. On va encore l'augmenter encore un peu cette semaine. Il y a des travaux qui sont en cours. Le président vient de donner son autorisation pour un autre site pour y construire un nouveau centre de traitement pour Conakry. Sinon, d'autres acteurs sont en train d'arriver et vont pouvoir faire fonctionner d'autres centres de traitement ailleurs dans le pays.
On est en train de perdre le contrôle en Guinée. Ce sont les mots du chef de mission de Médecins sans frontières à Conakry. Une dégradation qui s'explique par des mouvements de personnes au niveau des frontières de la Guinée avec le Libéria et la Sierra Leone, deux autres pays touchés par les virus Ebola, explique Jérôme Mouton.
La situation s'est tellement dégradée dans les pays voisins, frères et sœurs, Sierra Leonais, Libériens, viennent chercher le refuge, les soins. Hélas, certains d'entre eux, quand ils passent la frontière, sont peut-être en bonne santé, mais ils ne savent pas, ils ont déjà été infectés et vont développer les symptômes ici. C'est comme ça que ça a relancé plusieurs chaînes de contamination en Guinée et que ces chaînes n'ont pas été contrôlées.
La lutte contre Ebola en Guinée connaît d'autres obstacles. Certains malades n'ayant pas confiance aux médecins partent vers les guérisseurs traditionnels. Ces soignants seront désormais mis à contribution par les autorités sanitaires du pays. Docteur Sakoba Keïta, coordinateur national de lutte contre Ebola.
Ils ont toute leur place dans notre système de surveillance. Nous voulons changer cette disposition par l'offre de participer à la surveillance et qu'ils acceptent de se retirer du traitement, mais être des agents de surveillance pour améliorer la détection des cas. Ils vont nous notifier les cas qu'ils ont et qui ressemblent à Ebola. Ainsi, nos services pourront prendre en charge très tôt ces cas.
Au mois de juillet, l'épidémie était sous contrôle en Guinée. Le mois suivant, c'est-à-dire août, 230 cas ont été notifiés, 360 en septembre, 550 cas seraient enregistrés ce mois-ci, prévient MSF. Et la semaine qui vient de s'achever n'a enregistré aucun cas d'infection d'agents de santé. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
En République démocratique du Congo, 84 organisations de défense des droits de l'homme demandent au gouvernement de revenir sur sa décision concernant Scott Campbell, directeur du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme. Les autorités congolaises l'ont déclaré persona non grata, le sommant de quitter le pays, suite à la publication de son rapport accusant la police congolaise d'exactions lors d'une opération Likofi pour traquer les délinquants à Kinshasa entre de novembre 2013 et février 2014.
Le gouvernement affirme que le document n'a pas pris en considération sa version des faits. Jacques Aristide s'est entretenu avec Dolly Ibefo, directeur exécutif de l'Association de défense des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix.
Le rapport contient les éléments qui ont été déjà diffusés par les organisations de défense des droits de l'homme de la République. Les organisations se sont dit ça ne sert à rien de s'acharner sur la personne qui vous donne l'information. Il faut plutôt prendre cette information, vérifier ça. C'est donc une façon de demander à notre gouvernement de mener des enquêtes par rapport à toutes ces informations, ces dérapages qu'il y a eu durant l'opération. C'est une opération qui était appréciée en fait, par la population parce qu'il y avait des délinquants en fait, qui semaient la désolation dans la population. Mais l'objectif a été détourné dans l'exécution de la mission.
Mais Kinshasa affirme que l'ONU n'a pas suffisamment tenu compte des remarques que le gouvernement a faites sur l'enquête avant qu'elle ne soit publiée, à propos notamment des exécutions imputées à la police congolaise. Ne pensez-vous pas que les autorités auraient dû également avoir droit à la parole dans ce rapport?
Je crois qu'avant de publier le rapport, les autorités ont été saisies parce que nous avons vu d'accuser des réceptions des autorités par rapport à ces rapports-là. Nous savons que dans les tribunaux militaires, il existe des dossiers, des affaires qui concernent ces cas de l'opération Likofi, coup de poing, qu'il y avait, c'est qu'il y a eu des dérapages et que les autorités, lorsqu'ils déclenchent les informations judiciaires, ça signifie qu'il y avait des problèmes.
Mais la version du gouvernement n'a pas été incluse dans le rapport.
Bon, la version n'a pas été incluse, ça, le gouvernement a fait qu'il le déclare. Mais nous, ce que nous nous avons demandé, c'est pour mieux contredire en fait ces rapports, il faut pouvoir mener des enquêtes, diriger une autre enquête, donc déclencher une nouvelle enquête où on verra que ces informations qui se trouvent dans ces rapports sont fausses, en présentant des éléments réels sur terrain.
Voilà, c'était Dolly Ibefo, directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix à Kinshasa.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le doute après l'accord annoncé par le Nigeria avec Boko Haram. Y aura-t-il un cessez-le-feu? Les collégiennes de Chibok seront-elles vraiment libérées? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Au Mozambique, c'est la confusion près d'une semaine après les élections nationales. Selon les résultats partiels, le parti au pouvoir est en tête, mais semble avoir perdu du terrain face à l'opposition. Celle-ci crie à la fraude alors que des observateurs estiment que le vote était libre et équitable. Jean-Roger Billon.
Les résultats des élections étaient attendus 72 heures après le vote, soit mercredi dernier. Les premières projections donnent la victoire au Frelimo qui remporterait la présidence et les législatives avec environ 58% des suffrages exprimés. Mais le retard et d'autres problèmes ont fait monter au créneau Alfonso Dhlakama, le leader de l'opposition qui dénonce une injustice. Son parti, la Renamo, parle de fraude et de bourrage des urnes. Les observateurs de l'Union européenne, de l'Union africaine et de la Communauté de développement de l'Afrique australe ont pourtant constaté que les irrégularités étaient isolées et que le vote a été en grande partie libre et équitable. Fernando Lima, journaliste mozambicain, pense que ce résultat, même s'il est défavorable à la Renamo, a l'avantage de desserrer la mainmise du Frelimo sur les affaires du pays.
Je pense que le résultat des élections est la meilleure solution pour les investisseurs. Le Frelimo est certes censé être le gagnant, mais le Frelimo n'a pas gagné grand. Le Frelimo sort des élections affaibli, ce qui va l'obliger à être plus ouvert au dialogue et à la négociation avec l'opposition.
Mais comme toujours dans une nation déchirée par 16 ans de guerre civile, la peur du conflit n'est jamais loin. Selon Carlton Cedeado, tous les regards sont rivés vers un seul homme, Dhlakama, qui dirige la Renamo depuis la sanglante guerre civile. Dhlakama a déclaré dimanche qu'il n'a pas l'intention de reprendre le maquis, mais il est clair qu'il reste une figure qui va marquer l'avenir du Mozambique.
Je peux dire que nous avons grandi depuis 1992. Nos élections, nos partis politiques, nos organisations de la société civile sont vraiment engagées dans ce processus politique. Nous pouvons être fiers de cela, mais bien sûr, nous ne pouvons pas ne pas nous inquiéter en pareille circonstance. Nous ne savons pas exactement ce que sera le comportement des partis politiques, en particulier de la Renamo. Il n'est pas rationnel de commencer une nouvelle guerre. Tout le monde regarde la Renamo à l'intérieur comme à l'extérieur.
Il reste à voir ce que chaque parti va décider. Mais les investisseurs suivent avec beaucoup d'intérêt les événements en cours au Mozambique, un pays qui pourrait devenir un géant de l'énergie sur le continent.
L'actualité sportive avec Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
En football, le Niger change de sélectionneur.
Et quelques jours après la défaite 3-0 en Zambie du MENA, Gernot Rohr s'en va. La qualification semble compromise et c'est son adjoint Cheikh Omar Diabaté qui assurera l'intérim pour les deux prochains matchs. On écoute Gernot Rohr que j'ai joint ce soir en France.
Oui, c'est la fin de à 6 semaines de mon contrat officiel. Je l'avais prolongé pour 3 mois pour faire les qualifications pour la CAN. Donc 6 semaines avant le terme de cet avenant, nous nous sommes séparés. J'ai pris l'initiative et nous nous sommes arrangés à l'amiable parce que je ne pouvais pas continuer comme ça. Voilà. Moi-même, j'aime gagner, donc ça n'a pas été le cas. On a 2 points, il y a encore une chance de se qualifier pour la CAN, mais ça a été très compliqué. Donc du coup, j'ai pensé que c'était le bon moment pour me retirer. Voilà, chose qui a été acceptée par mes dirigeants. J'ai été reçu par le ministre des Sports. On s'est dit au revoir et avec évidemment aussi la FEMIFOOT qui m'a remercié pour le travail qu'on avait fait depuis 2 ans. Une équipe était arrivée en fin de cycle, beaucoup de joueurs âgés. On a essayé de la rajeunir, de la reconstruire. Elle a fourni de belles choses, elle a montré de belles promesses d'équipe. Elle a manqué un peu de réussite. Il y a eu ce déplacement lointain, fatigant pour la Zambie qui, contre le cours du jeu, nous a sévèrement battus. Et voilà, donc le moment est venu.
Mais donc aujourd'hui, sur vos arriérés de salaire, tout a été réglé, tout est clair avec la fédération ?
Écoutez, moi, je n'ai jamais parlé publiquement de mes soucis de salaire, ça c'est sûr. Je sais qu'au Niger, il y a des priorités autres que de donner un salaire à un entraîneur et que donc j'ai toujours été patient. Évidemment, là aussi, les choses ne sont toujours pas simples, mais j'ai beaucoup de compréhension pour cela. Donc, si j'ai pris la décision de partir, c'est en même temps pour leur permettre d'économiser de l'argent.
La guerre notre or, l'ex-sélectionneur du Niger.
La CAN 2015, justement, aura-t-elle lieu ? Si oui, dans quel pays, Nicolas ?
Ah, autant de questions qui vous brûlent les lèvres, du suspense qui se pose après la démarche marocaine de reporter la compétition pour cause d'Ebola. Eh bien, tout est en suspens, puisque le comité exécutif de la Confédération africaine de football se réunira le 2 novembre en Algérie pour traiter le dossier avant de se rendre à Rabat. Si le Maroc renonce et si plus d'un volontaire se manifeste pour le remplacer, un tirage au sort sera organisé. D'ores et déjà, l'Afrique du Sud affirme ne pas être disposée à faire office de plan B. Par la voix de son ministre des Sports, Chérubin, Pretoria refuse cette idée. On se souvient que l'Afrique du Sud avait déjà servi de plan B pour la CAN 2013 en raison des événements évidemment en Libye. Et l'Afrique du Sud, qui était le premier pays et seul pays africain ce jour à revoir organiser une Coupe du Monde de football, c'était en 2010.
Et à cause d'Ebola, les médecins ghanéens ont dit non également pour le Ghana. Autre CAN féminine cette fois en Namibie.
Oui, on part en Namibie, ce sera après-demain les demi-finales. 2 duels, l'un anglophone entre l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et les francophones, les camerounaises, feront face aux ivoiriennes.
Et la FIFA qui fait des visites d'inspection déjà pour le Mondial 2018.
Eh oui, c'est dans 4 ans, on a le temps, mais ça passe vite. Hein. C'est ce qu'a déclaré lundi son chef, l'Américain Christian Unger, qui est content de ce qu'il a vu. Pour le moment, il est satisfait. On se souvient que la préparation du Mondial au Brésil avait été marquée par d'importants retards.
Merci Nicolas Pinault, que l'on retrouve tout à l'heure dans Sporama.
On passe à la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Meghan Trainor est déjà à la tête d'un tube surprise aux États-Unis. Pas étonnant Morgane, pour ses 13 ans, ses parents Gary et Kelly Trainor lui offrent un ordinateur pour l'aider à créer ses propres chansons. Résultat, elle est devenue aujourd'hui un véritable phénomène grâce à All About That Bass.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, bass, bass.
Durant l'un de ses déplacements musicaux, elle a rencontré Kevin Kadish, un producteur nominé aux Grammy Awards, avec lequel elle compose notamment cette chanson. All About That Bass.
Oui, Morgan, à 20 ans, Meghan Trainor, originaire du Massachusetts, a frappé fort avec sa chanson contre toute attente. Il faut dire que son texte va à l'encontre de tous les standards que les magazines et les médias tentent de montrer au public. Meghan a donc voulu écrire un titre en vantant les mérites de forme et de rondeur grâce à un message positif sur l'acceptation de soi. Elle a collaboré avec de grands noms tels que Miley Cyrus. La chanson a atteint la première marche du Billboard Hot 100 ou le Top 10 American Music cette semaine.
Meghan Trainor, All About That Bass. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Morgane, à plus.
Et Roger Muntou, vous le retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
Et Et voilà, c'est la fin de cette édition qui a été mise en onde par Issia Kaba, assistée de Michel Joseph. À la technique, nous avions Wagner Robert. Laissez-nous vos messages sur Facebook.
Oui, et merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guirieco au micro.
Et cher Ruben Orsil.